Chers amis, Assalamu alaikum Tihyo, les Orechaim Tomim et Shanim Niamim. Nous poursuivons notre lecture du Sefer exceptionnel Zera Shimshon, du grand maître, l'illustre Rabbeinu Shimshon Haim Nahmani, que son mérite nous accompagne. Nous sommes Parashat Toldot, Darouche 4. Dans ce Darouche, le Rav ramène une comparaison, fait une comparaison, qui est réellement mentionnée dans le Midrash, entre le fait que David était, avait le teint rouge, était roux, et cette comparaison avec Esav, qui ressemble quelque part à Esav. Alors, nous allons regarder, voir les psukim qui sont mentionnés dans le prophète. Alors, il dit, le prophète, après que Shaoul ait failli à la mission de détruire Amalek, alors que Shmuel lui a déchiré le manteau, et qu'il a perdu sa royauté, que sa royauté va s'interrompre. Alors Shmuel était triste, alors Akadosh Baruch Hu lui dit, ne reste pas comme ça, admata atamitabe al Shaoul, jusqu'à quand tu vas t'endeuiller, prendre le deuil de ce qu'a fait Shaoul. Va chez Ishaï Bet Alahmi, et tu vas oindre un de ses enfants comme roi. Il lui dit, prends ta corne, et prends l'huile d'onction, et vas-y. Donc le prophète Shmuel se rend chez Ishaï et il lui demande, présente-moi tes enfants, parce qu'il y en a un que je dois oindre. Alors Ishaï fait défiler ses 7 enfants devant Shmuel. Mais on remarque que le prophète est étonné, il n'y en a aucun qui correspond. D'ailleurs, quand il a pensé que c'était l'aîné, alors il lui a dit, à quelque chose, il dit non, toi tu vois l'apparence, mais qui Adam irait à... Je sais qu'il est orgueilleux, c'est pas lui. Donc à la fin, il lui dit, il n'y a plus des enfants. Alors Ishaï lui répond, voilà, j'ai le petit, il est dans la forêt, il garde des pâturages, il est au pâturage avec les brebis. Alors Shmuel lui dit, on va le chercher. Il envoie chercher, il veut venir. Or, dès qu'il le voit, il voit qu'il a le teint vermeil, il est roux. Et avec cela, des beaux yeux, une belle mine. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, va, c'est lui. C'est lui, Zéhu. Comme ça dit le pasuk. Le Midrash dit, en apercevant que David a le teint roux, Shmuel, il a peur. Il se dit, cet homme versera le sang comme Esav. Est-ce que lui, il est comme Esav? Parce que Esav aussi. Ah, Akadosh Baruch Hu lui dit, et ça verse le sang de sa propre initiative, de sa propre volonté, alors que lui le fera selon la décision du Sanhédrin. Ça, c'est un Yelkut Shimoni dans Parashat Toldot. Alors, cette crainte de Shmuel n'est pas justifiée. Voilà que David devait faire de nombreuses guerres, comme le disent les versets. Le même David dit à Shlomo, mon fils, c'était mon désir à moi de construire le Beth Amikdash au nom de l'Éternel. Mais Akadosh Baruch Hu a dit, il m'a dit, tu as versé beaucoup de sang, c'est ton fils, toi tu ne le construiras pas, mais c'est ton fils qui construira le temple, le sanctuaire. Donc c'est ce qui a marqué ici. Donc le verset, il dit, car tu as fait couler beaucoup de sang devant moi sur cette terre. Donc mais là, et David ne peut pas. Le teint, alors pourquoi il a le teint, et pourquoi il est le roux, pourquoi il a le teint vermeil? Alors c'est pas uniquement un signe que David doit combattre et verser le sang. C'est pas ça uniquement. Mais il traduit aussi la nature de sa personnalité qui semble être mauvaise. C'est pas parce qu'il va faire la guerre. C'est pas, on ira que celui qui est de ce admoni qui est employé pour David, qui est employé pour Esa, ça signifie qu'il y a des mythes d'autres en haut. À ce sujet, nous disent, Chachamim, ils font la métaphore suivante. Ils disent qu'il a épongé de tout son être, tout le sang des menstruations de sa mère. Ça veut dire, il a bu, Beshata Damnida Shelimo. Comme ça, il est marqué. Donc, ça veut dire que les deux ont fait la même démarche. Alors, il en va de même pour David. Et c'est là la raison de la crainte de Shmuel. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, Esav, il a bu le Damnida de sa mère. Les menstruations de sa mère. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et David a imité ça dans ça. Alors pour apaiser cette crainte, alors parce qu'il a peur, Alors il lui dit, il doit combattre, mais il ne combat pas comme ça, mais il combat Alpi Torah, d'après la Beth Din. Cependant, cette réponse ne donne pas la raison pour laquelle David éponge le sang de la Nida. D'accord, il va faire des guerres Alpi à Torah, Alpi à Lacha, il va tuer les gens parce que c'était Midat al-Din, c'est le Din qui est comme ça, parce qu'il le méritait. Mais ça ne dit pas pourquoi il a tardé, c'est-à-dire qu'il a bu, il a adopté un peu l'attitude de Esav. On nous dit le pasouk, nous dit le midrash, Esav, dès l'instant de sa conception, il est attiré, captivé, appâté par les aspects négatifs inhérents à l'acte de procréation. La référence qui est faite au sang de Nida renvoie au sang versé. Le meurtre inutile, c'est la spécialité de Esav. Et d'autre part, il sous-entend un attachement certain pour tout ce qui est plaisir et jouissance de ce monde. Alors bien évidemment, David est très loin de ressembler à Esav. Il dit de lui, moi je suis un vermisseau, je dis de lui-même, c'est-à-dire, je suis comme un ver et pas un homme. Je suis l'opprobre des gens et objet de mépris de tout le peuple. C'est-à-dire, il se rabaisse au plus bas. La question qui se pose est pourquoi l'avoir qualifié de Admoni. Comme Esav. La similitude apparente entre les deux personnages est trompeuse. Alors, quel secret ça renferme? Le Midrash commente. Haïm vahesed asita imadiv kudatra shomra rohi. Le pasouk dit dans Tehillim, dans Job, tu m'as octroyé vie et bonté. Haïm vahesed asita imadiv. Et tes soins vigilants, tu surveilles. Ils ont préservé mon souffle. Alors, la matrice de la femme est pleine de sang stagnant. Parfois, il s'écoule et cause l'impureté. Et d'autres fois, il est traversé par une goutte blanchâtre de semence qui féconde l'ovule. Et de suite, le germe de la vie est conçu. Ainsi, la volonté de Kadosh Baruch Hu se réalise. Ça, c'est un Midrash Rabbah dans Vaikra. C'est-à-dire qu'à l'instant de la fécondation, une âme est choisie pour venir intégrer donc la semence, le germe de semence, qui donnera la forme à l'embryon. Alors, la naissance de David soulève un problème dans sa légitimité en tant que juif et en tant que roi. En effet, Ruth à Moavia, accompagne Naomi, retourne en Israël. Cependant, elle s'est convertie. Cependant, elle épousera Boaz, malgré les réticences du reste des sages. Il est dit, Lo yavo Amoni o Moab, Ebe Kalachem. Aucun homme, issu des peuples de Amon et de Moab, ne peut contracter un mariage en Israël. Jusqu'à l'époque de Ruth et de Boaz, il était admis que cet interdit s'applique aux hommes comme aux femmes. Et c'est Boaz qui innove, qui réduit cet interdit qu'aux seuls hommes. Il y a marqué, Lo yavo Amoni, o Moabi Bekalachem. Amoni, velo Amonite. Velo Moavite. Donc, c'est lui qui va limiter l'interdit aux hommes et pas aux femmes. Comme le dit la Gemara dans les Babot, à la page 77a. De ces deux peuples, issus de l'union de Lot et de ses filles, comme on l'a vu, émergeront plus tard deux femmes, Ruth et Naama, la harmonie qui donneront naissance au Mashiach. Donc les deux, de cette relation qu'il a, Lot, avec ses deux filles, il y a deux peuples qui vont naître, qui vont donner naissance à deux femmes exceptionnelles, Ruth, en l'occurrence, de Moab, et Naama, harmonie, qui donneront naissance au Mashiach. Cette halakha était inconnue. Elle sera dévoilée pour permettre à la descendance de Yehuda de donner naissance à cette branche, de laquelle va éclore la royauté d'Israël. Cependant, cette halakha, nouvellement innovée, est contestée. Donc, dans la Megillat Ruth elle-même, quand Boaz il propose aux parents qui est plus proche, Ploni, Almoni, tu veux, il lui dit, Louchal, Penachet et Nahalati, il lui dit, je ne peux pas me marier avec elle de peur que je détruise ma descendance. Ça veut dire qu'il pensait que cette femme-là a été interdite, que s'il a des enfants avec elle, ils sont psoulim, ils sont des enfants qui sont illégitimes. Et donc c'est Boaz qui innove cette halakha-là. Cependant, comme elle n'est pas établie, cette halakha-là, de manière formelle, c'est Boaz qui a fait ça. Alors, elle restera, il va rester un doute qui va planer sur la validité de ce qu'il a fait, Boaz, en épousant. Est-ce que c'est vrai, c'est juste, la halakha que Boaz a tranchée, en épousant, en plus, il l'a fait pour lui-même. Et en plus, il meurt tout de suite. Alors, il faudra attendre que Shmuel, que c'est Shmuel, un avis, qui va décréter que cette halakha-là, elle est juste. Comment? Comme la Gemara, elle dit, que quand il y a eu une contestation, il dit, car, mes kobanim, mes bedino, chèche-moi la ramati, que c'est mouta, mon avis, vélo mon avis, amoni, vélo amoni, t'es au masculin ou pas au féminin. Et la coucha qui est demandée, ah, il y a marqué, alors, mamzer et mamzeret, aussi, tu vas dire la même chose? Aussi, si tu vas dire, le issour, il est au masculin et pas au féminin, la Gemara, elle dit, tu savais pas quoi répondre, là-bas, la Gemara, une tirouse dans la Gemara qui dit, Kolke Vouda bat meler penima. Ça veut dire que eux, pourquoi les Ammonim et les Moabites, ils sont interdits? Parce qu'ils ne sont pas sortis à ta rencontre. Quand Israël a traversé leur terre, qui est venu à leur rencontre, ils ne sont pas venus avec du pain et de l'eau. Alors c'est pour ça. Alors, Vechi, Darkash, Elisha, la tête, c'est les femmes. Elles ne sortent pas vers les invités, c'est les hommes. Donc de là, on apprend que c'est au masculin, l'interdit au masculin et pas au féminin. Alors, de sorte que donc, ce doute-là, il va planer. Un jour, que Ishaï lui-même, il a un doute sur lui-même, puisque lui, il est descendant de Boaz. Alors, de sorte qu'Ishaï, vers la fin de sa vie, est tourmenté par ce doute. Est-il lui-même un Moabite? Est-ce qu'il est descendant de Moab? Dans ce cas-là, il peut pas vivre avec sa femme. Alors, peut-être qu'il est bon, peut-être que oui, peut-être que non. Alors, d'un côté, Boaz, son ancêtre, était Boaz, il était chacham, il était chauffette. Il est un chaînon de la transmission de la Torah orale. Et peut-être qu'il s'est trompé, peut-être que pas. Alors il décide, Ishaï, de faire quelque chose qui est de se séparer de son épouse. Alors, et sa femme, elle refuse de regette. Elle refuse de guette. Donc dit le Midrash, il y a des Midrashim sur ça, il va la remplacer par une Shifha Kenaanite. Donc il prend une Shifha et il la libère, il a franchi Altna, il fait une condition. Il dit si je suis un Moabite, alors toi tu restes une servante, parce que si lui il est Moabite et il libère cette femme-là, et elle devient juive, donc il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec elle. Alors il dit, si moi je suis Moabite, toi tu restes Shifha. Donc l'enfant, il sera quoi? Il sera, s'il y a un enfant, il sera Eved. Et je le libérerai. Si toi, moi, je suis pas Moab, je suis Mouta, alors tu es libéré entièrement et on a le droit de vivre ensemble. Ça, c'est, il a fait une libération à Tnaï. C'est ainsi que Ishaï a solutionné son problème. La servante, elle va donner sa place à sa maîtresse, à la vraie femme de Ishaï. Et cette femme-là va tomber enceinte. Ishaï, il est Kadosh Nora. Il sait Loyada Beshurvav Kuma. Il sait pas ce qui se passe. Donc, il a un rapport avec elle, il la met enceinte, mais il pense lui avoir eu des rapports avec la servante. Donc, cette femme-là, elle est enceinte, sa femme, alors on va dire que elle l'a trompée, elle est tombée enceinte par quelqu'un d'autre. Donc, c'est à ce moment-là que David, il va naître et il va être contesté. Il va dire, Mouzar a été les haï, nochil ibn imi. Ça, alors, Ishaï pensait avoir une relation avec sa nouvelle femme. Alors qu'en fait, il était avec sa première épouse. C'est vrai que ce genre de pensée, c'est vrai que dans ce genre de pensée, c'est-à-dire on pense à une femme et il va avec une autre, même si c'est les deux, c'est ses femmes, c'est pas bon, ça crée un défaut dans le... C'est un gamme, c'est ce qu'il y a eu avec Yaakov, il pensait... Ça veut dire, lui, il pensait aller avec Rachel et il était avec Léa. Donc, Réhouven, il était, pour ça qu'il dit, Réhouven, Kohev et Réchitoni. C'est comme si qu'il a un gamme, Réhouven, quelque part. C'est là la raison de ce qu'écrit Rabbi Menachem Azaria Difano. L'âme de David avait de grosses difficultés à descendre. À cause de cela, parce que le gamme de la Kavana, lui, Ishaï, il pensait aller avec la servante, mais il allait avec la vraie femme. Donc, il y avait un problème ici. Et ça empêche la Neshama de David, qui était une Neshama Gevoa, mais haute, très haute, de descendre dans ce monde. Donc, c'est comme ça qu'il dit le Rama Mepano dans Hekor Adin. Alors, revenons maintenant au Midrash. L'âme de David décide de descendre de sorte que la goutte de semence attend de longs instants dans la matrice. C'est-à-dire que ça prend du temps, il y a un dion, le lieu où stagne le sang, c'est comme on l'a dit dans le Midrash. Elle est alors imprégnée, plus qu'il ne se doit, de cette influence. C'est pour cela que Shmuel aperçoit Admoni, la couleur rouge du sang, a déteint sur lui. Mais qu'il se rassure, cela n'était pas le choix volontaire de David, c'est pas David lui-même, de lui-même qui a choisi ça. C'est à cause de ce fait, de cette situation, de la manière dans la forme que prend la venue de David dans le monde. Alors que pour Esav, c'est lui qui choisit de sa propre initiative de s'attarder pour aspirer et saisir au maximum les influences de ce sang. Cette influence limitée que subit David se traduit par le fait qu'ils doivent exercer la rigueur sur ses ennemis et mettre à mort Alpi Alakha, selon la décision du Sanhédrin, évidemment. Ça, c'est la différence qu'il y a entre David et Esav. Cependant, il y a lieu de se questionner sur la justesse. Est-ce que cette réponse-là, elle est juste? En effet, il est reproché à David d'avoir tué Uriah Hitti, de lui avoir causé la mort. Il était l'époux de Bathsheba. Et ça, il n'a pas jugé, il n'a pas fait un tribunal. La Gemara dans Shabbat, dans Kiddushin, elle nous parle de cette problématique. Oto Aragda Behere Ben Amon, lui dit le prophète. Uriah était-il vraiment passible de mort? Quel crime a-t-il commis? Mais au fait, qui était Uriah? Comment a-t-il épousé Bathsheba? Uriah, en vérité, il était, nous dit le Midrash, il était l'écuyer de Goliath. Quand David l'affronte et tue le géant, il abat. Il ne peut lui enlever, il y avait un code dans le casque et dans l'épée. Il ne peut ni lui retirer l'épée du fourreau, ni lui enlever le casque pour lui trancher la tête. Ces deux éléments sont enfermés par un code. C'est alors que Uriah, il s'avance et lui propose de l'aide. Il lui dit, si je te montre comment les ouvrir, est-ce que tu es prêt à user de ton influence afin que je puisse me convertir? Et tu me donnes procurer une femme. David lui dit, il n'y a pas de problème. Il accepte. Et c'est ça le reproche qu'on va faire à David. Minash Shamim, on va dire, toi, tu proposes aux gens comme ça des femmes, eh ben, tu donneras la tienne. Celle qui était destinée. David, il a marqué, la Gemara dans Psaïm, il dit, pourquoi on dit Eloé Abraham, Eloé Isaac, Eloé Yaakov, et on ne dit pas Eloé David? Alors, Akash Bokho lui a répondu que les Avot et Kedoshim, ils ont subi des épreuves, ils les ont surmontées. Mais toi, tu n'as pas été mis à l'épreuve. Alors, c'est bon, il dit, David dit à Hachem, vas-y, mets-moi à l'épreuve. Et c'est là, le soir même, va y balayla, le soir même qu'il a dit ça, il a chaud, il y a un problème, il ne se sent pas bien, il monte sur le toit pour s'aérer. Et là, il va apercevoir Bathsheba qui se lave, qui prend son bain. Alors David, il a perçu ça fortuitement, par hasard. Il envoie son aide de camp, pour se renseigner. Il dit, qui c'est cette femme-là? On lui répond, c'est Bathsheba, Bat Eliam, Eshet Uriah Hitti. C'est Bathsheba, la fille de Eliam, l'épouse d'Uriah Hitti. Après, il a marqué, il dépêcha des envoyés. Il a pris, il a, Vaikarota, voyavo Eliam. Plus tard, il y a marqué, elle lui fait dire qu'elle est enceinte. Alors David, qu'est-ce qu'il fait? Il fait revenir Uriah du champ de bataille, il lui demande de rentrer chez lui. Alors c'est au matin que David, il apprend qu'Uriah, il n'est pas rentré à la maison, il est resté dans la caserne. Alors, il lui dit, Uriah, David, il demande, ah ouais, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas fait ce que tu as fait, qu'est-ce que je t'ai demandé? Il dit, non, mais comment je peux rentrer? Je peux aller à chez ma femme alors que le Aaron HaKodesh il est dans le champ de bataille et que les serviteurs de Yoav, mon maître et le chef de guerre, ils sont en combat. Alors c'est là la suite que David renvoie Uriah et à la guerre et il écrit à Yoav ben Tseruya de le mettre en première ligne qu'il meurt. C'est-à-dire de le mettre en première, de l'abandonner en première ligne. De sorte que les ennemis l'abattent. Alors après, a marqué, quand, plus tard, Nathan un avis, il va le reprocher, ça, à David, d'avoir fait périr, Veoto, il lui dit, Veoto, Aragta, Behere, Bene Amon. Il dit, tu l'as tué avec l'épée de Bene Amon. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Rabbi dit, Il aurait dû le faire un jugement. Pourquoi il n'a pas fait un jugement? Alors la Gemara, elle dit que tous ceux que les hommes de Ammon y tuaient sont. Cependant, la Gemara poursuit et affirme que tout comme tous pour ceux que les hommes d'Ammon avaient, n'a aucune responsabilité dans la mort de Ouria. Il n'est pas tour de la mort d'Ouria. Mais c'est la seule chose, c'est qu'il a fait tuer par Haré ben Ammon. Pourquoi? Parce que sur Haré ben Ammon, il y avait une Avodazara. C'est le reproche qu'on fait. Mais pourquoi? Voto Arakda, ça veut dire quoi? Voto Arakda, il fallait dire, tu es là, tu es si Ouria, il était innocent. Le prophète, il dit pas, Voto Arakda, Beharé ben Ammon. Il aurait dû lui dire, Voto Arakda. Pourquoi Beharé ben Ammon? C'est le reproche, il est qu'il a été tué par l'épée de ben Ammon. Il y avait une Avodazara, il y avait un Avodazara dessiné sur cette épée-là. Alors pourquoi la question elle est, si Ouria Hiti il a commis un crime de lèse-majesté, Mored ben Malchut Aya, la Gemara elle dit, s'il était Mored ben Malchut, alors il fallait faire un tribunal. Le Rambam dit, tout celui qui se rebelle contre le roi d'Israël risque la mort. Le roi détient le pouvoir et le droit de le mettre à mort. Le roi qui décrète que tel homme du peuple aille à tel endroit, ou s'il ordonne à tel autre de ne pas sortir de chez lui, ceux qui n'appliqueraient pas ces lois sont passibles de mort. Cette sentence est laissée à la discrétion du roi et à sa convenance. C'est le roi qui choisit d'appliquer la sentence ou pas. Comme c'est marqué dans le Rambam, Hilchot Melachim, les halachot des rois. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il semble ressortir de là qu'il ne soit pas nécessaire de le juger devant un tribunal. Ça, c'est le juge de Rambam. Cependant, Tosfot, il dit différemment, et ce n'est l'obligation qu'un tribunal se réunisse et siège pour juger ce crime, afin de recueillir les témoignages et de les confronter lors des débats. Donc, le tribunal y siège, alors on va discuter. Il est alors possible de dire que David a agi conformément à l'avis de Rambam, et que Nathan lui reproche qu'il aurait dû adopter aussi l'avis de Tosafot, afin d'essayer de le sauver de la mort. Parce qu'il y a marqué « Véchave-toi, et David, si loin, Aïda ». Eda, chauffeté, Eda, Matzel, et toujours on essaie de trouver, de sauver le condamné. Le tribunal est composé d'un nombre de juges, de sorte qu'il soit appliqué une assemblée qui juge et une assemblée qui condamne. Donc il faut arriver à le sauver. Non, moi, en toutes ces quatre choses, David a agi conformément à la loi. Il ne s'est pas écarté de la loi. David l'a frappé par l'intermédiaire du glaive d'Amon pour montrer qu'Ouria avait bien commis un crime de lèse-majesté et devait être exécuté uniquement par le glaive. Parce que celui qui commet un crime de lèse-majesté, il est haf mita beherev. À présent, penchons-nous sur la raison qui pousse David à ne pas le juger devant un tribunal. Alors ça, c'est un autre, on fait une parenthèse. Il dit pourquoi Bémet, il avait un safek. Ce droit que tient le roi de faire respecter ses ordres, et que toutes ces volontés soient appliquées sans exception, aucune, tient dans l'obligation d'avoir la crainte du souverain et de l'honorer. Ce qui est indispensable pour que la stabilité de l'État soit établie et que l'union du peuple se fasse autour du roi. Un roi qui ne doit avoir que la crainte du Seigneur, Kadosh Baruch Hu, celui qui a la peur de quelqu'un, alors il n'est pas roi. Si David avait jugé Ouria devant un tribunal, lors des débats, on aurait avancé le fait que le roi avait une relation avec Bathsheba. Certains n'auraient pas manqué de souligner que cela était peut-être la vraie raison pour laquelle il accuse Ouria d'un crime que très probablement il n'a pas commis. Dans cette situation, il aurait obtenu l'effet inverse de celui qu'il recherchait. En effet, son autorité aurait été affaiblie, bafouée. Il aurait été lui-même affaibli politiquement. Donc le seul reproche fait à David est que les glaives de Béné Amon, comme on l'a dit, il y avait un serpent qui ondule l'effigie du dieu d'Arkon qu'il y avait sur l'épée. Toutefois, l'avis de Rambam mérite encore réflexion. Car si l'on prend le cas d'Ouria comme exemple, il est a priori nécessaire de juger l'accusé, celui qui est accusé de crime de Mored ben Malchut, de lèse-majesté devant un tribunal. Mais cette objection n'en est pas une, car Rambam ne parle que du cas où il est établi sans aucun doute que la volonté de l'accusé de nuire à l'autorité du roi. Alors que dans le cadre, il y a un safek. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. avant de s'éteindre, avant de mourir, David, il fait des recommandations à Shlomo. Et il lui demande de s'occuper de Shimei ben Gera, qui s'est permis de l'insulter quand il fuyait devant son fils Avshalom, qui s'est accaparé le royaume. Pendant 6 mois, David y fuit. Et là, Shimei ben Gera, il l'insulte. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui dit, on va le tuer, il est Hayamita. Et David refuse qu'il soit mis à mort. Il est évident que Shlomo ne le tuera pas sans raison. Shlomo convoque Shimei et lui ordonne de se construire une maison à Jérusalem et lui interdit de sortir de la ville. Sache que le jour où tu dépasseras la limite de la ville, alors tu es Hayamita. Alors il arriva, alors il lui a dit, la limite c'est la rivière de Kidron. Il arriva, il y avait des animaux qui sont sauvés, donc il est parti pour les rechercher et il a transgressé ce que Shlomo a. Donc il était Hayamita. Nos maîtres enseignent que tous ceux qui partaient à la guerre de David faisaient un guet à leur épouse afin qu'elle soit libérée de toute contrainte. Quand la yotze le milhamet ben David, kotev guet kritut l'ishto. Rachid dit que ce guet était sous condition de la disparition du mari. S'il était tué au combat, alors le guet prenait effet rétroactivement. Mais selon les Tosafot, il y a un effet immédiat. Dès qu'il donne le guet, il est divorcé. Mais on ne divulguait pas la chose, qu'il devait rester dans la totale discrétion, parce que sinon après l'autre il est à la guerre, et il y a quelqu'un qui va venir séduire la femme qui est maintenant, qui est libérée. Il ressort que selon Rachid, David avait intérêt qu'Uria meure à la guerre, afin que sa femme soit depuis le début divorcée. S'il avait été condamné à mort par un tribunal, son guet n'aurait pas pris effet rétroactif, et David aurait alors fauté. Selon les Tosafot, le guet a un effet immédiat. Pourquoi ne pas l'avoir jugé devant un tribunal? Il n'y a pas d'intérêt. Afin que l'on ne dise pas qu'il a cherché un prétexte pour lui prendre sa femme. Alors Nathan, le prophète, reproche à David, tu as tué Uria par le glaive de Hamon. Et tu as pris sa femme. Tu l'as tué pour crime de lèse-majesté. Donc tu penses, comme Rachid, que pour que le guet soit valable, c'est rétroactif. Le mari doit disparaître à la guerre. Pour que le guet soit rétroactif, il faut que le mari meure. Mais il poursuit, sa femme, tu as pris. Cela est dit au passé. Tu l'as prise. Pourquoi? Parce que, avant qu'il meure. Donc tu penses quoi? Tu penses comme toi sa faute. Que le guet, il a un effet immédiat. Si c'est ainsi, pourquoi l'avoir tué par le glaive? Comme si que le reproche que le reproche était, tu as joué sur les deux tableaux. Tu as agi comme Rachid, comme toi sa faute. Deux thèses qui ne peuvent s'accorder. C'est ça la coucha qu'il y a contre David. Il est à noter que les actions de David concernant cet épisode sont qualifiées de fautes. Pour la forme qu'ils prennent, et non pas pour le fond. Le thème employé, hatat. Hatat, c'est une faute par inadvertance. C'est de cette union que doit devenir au monde celui qui apportera la réparation à l'ensemble de la création. Il y a aussi, maintenant on peut ajouter un biour. Parce que Uria, quand David lui dit, rentre à la maison. Pourquoi il dit ça? Donc il y a une chita qui dit qu'en vérité, Bathsheba, elle avait 6 ans. Elle n'avait pas de père. Pour ça qu'il dit dans le pasuk, Bathsheba bat Elia et chez Uria. Pour quel rapport ça a ça? Pourquoi on précise tout ça? Il dit parce qu'elle était petite. Et Ktana Shisiwa Ahea Veima, une petite. Elle n'a pas arrivé à majorité. Et c'est les frères, elle est orpheline, elle n'a pas de père. Donc c'est sa mère et ses frères qui la marient. Elle peut faire mioune, elle peut refuser. Elle est mariée avec quelqu'un, il la marie. Mais le mariage, il est donné à annulation. Dès que la femme, elle veut faire mioune, elle refuse. Le mioune, il y a marqué dans le Ebenezer, qu'elle peut le faire, elle peut le faire même en privé, devant un. Mais ici, il y a marqué qu'il a envoyé des messagers, David, pour qu'elle fasse mioun en public, et devant un bédin, devant des témoins. Quand il dit à Uria, rentre chez toi, pourquoi il lui dit rentre chez toi? Pour que tu entends, toi, Uria, que ta femme, elle a fait mioun, que tu le saches. Et Uria ne veut pas rentrer. Alors, mais il y a un doute, pourquoi il ne veut pas rentrer? Parce qu'Uria, peut-être qu'il est déjà au courant de l'affaire. Les bruits courent. Donc il dit, il veut jeter le doute sur l'attitude de David. Donc c'est cela qu'il a. Il lui dit, comment tu es pas rentré chez toi? Il lui a dit, Uria lui dit, Parce que le Aaron a connaissé au champ de bataille, que les soldats ils combattent, comment moi je vais rentrer chez moi? Il a l'air d'être un grand sadique. Souri Allah, il est Hassid. Hassida Kadisha au Précha. Il dit, si c'est vrai, alors Mehmet, c'est un sadique. Mais peut-être qu'il fait ça, il raconte ça, parce que dans son idée, c'est qu'il y a un doute qui va jaillir, que ça va sortir un doute dans l'attitude de David, et il va jeter l'opprobre sur David. Donc c'est un crime de l'adultère. Comme David, il a un safek, il peut pas faire un bedin. S'il fait pas un bedin, il va dire, je vais le mettre en première ligne de Amon, devant Amon. Si c'est un sadique, il mourra pas. Si c'est un rachat, il mourra. Donc c'est ce qu'il a dit. Il a dit, il a voulu trancher le safek qu'il avait en faisant ce din-là. Peut-être que Béhémet, il méritait pas de mourir. Alors c'est pour cela qu'il l'a mis en première ligne. Et avec ça, il a vérifié qu'en vérité, s'il est mort, ça signifie que Béhémet, Ouria, il avait une kavana mauvaise. Il était Béhémet réellement que Moret de Machot et il a commis vraiment un crime de lèse-majesté. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen. Ce limoud, il est l'ilou nishmata sur Rahamad Zikolet Baninet, Mordechai Bariz, Amenim Yaakov Azouar Itrout, Gabriel Eliyahu Bar Penina, Yvette Halou Badjeli, Zichonam le Haye Olam, pour la refoua Shelema, refoua Tenefesh, Vata Gouf de Nissan Tzvi Bar Dvora, Yosef, Yoshua Bar Esther, Sarah Rahel, Bat Yodidese, Yodide Jenny Michel Bat Rahel, Haya Moshka Esther, Bat Sipora, Yosin Naomi, Bativet Esther, Haim Bar Simi, Amram Bar Yakut, Eliyahu Bar Frecha, David Bar Saada, Tadori Vivian Bat Naomi, Shimon Bar Josephine, Haim Bar Esther, Saada Bat Mesodi, Nathalie Shoshana Bat Nicole Colette Lala, Cher Mesod, Ben Mesoda, Regis Lomo Bar Yola Elian, Bracha Bat Haya Figel, Moshe Eliyahu Bar Levana, Haim Bar Shlomit, Anna en Afanem, Anna en Afanem, Souta Torah, Souta Mhaber, Tagayim Ba'adam, que la Kosh Bukhu leur octroie une santé et une longue vie. Tous ceux qui sont en attente d'être délivrés d'une souffrance, de trouver une épouse, de fonder un foyer, d'avoir des enfants, d'avoir une meilleure parnassa, par le mérite du Rav, la Kosh Bukhu octroiera à chacun ce qu'il est en attente d'obtenir. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen.